Bonjour à toutes et à tous. Je vous demande de tourner aux Actes des Apôtres, chapitre 16. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous allons lire à partir de verset 16, acte 16, 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mise à nous suivre. Paul et nous, elle criait: ces hommes sont des serviteurs de Dieu très, très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit: je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Il sortit à l'heure même. 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place publique devant le magistrat et les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes Romains, la foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison et recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveillit et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il le fit sortir et dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tout ce qui était dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit et lava leur plaie. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute la famille de ceux qu'il avait cru en Dieu. Quand il fut jour, les prêteurs envoyèrent les lecteurs pour dire au geôlier: relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux lecteurs: après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'il était romain. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté et les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Le passage que nous avons lu est rempli de beaucoup d'incidents. Nous voyons plein de choses dans ce passage. Et surtout, nous rencontrons cette grande question. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, soit toi et ta famille. » Et cette personne, jusqu'à maintenant, il est inconnu, un geôlier païen qui était en charge d'un prisonnier bien connu de nous tous, l'apôtre Paul, avec son compagnon d'œuvre Silas. Mais ce geôlier n'est pas le seul homme qui n'ait jamais posé cette question. Il n'est pas le premier homme qui a posé la question non plus. C'est une question universelle. Des hommes de tous les temps posent et cherchent une réponse à cette question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Mais avant que nous rencontrions ce geôlier de Philippe, nous ne devrions pas négliger de comprendre le plan de Dieu pour cette ville, surtout pour ces personnes que cette équipe missionnaire allait rencontrer et amener vers le salut. Regardons le verset 6 à 7 du même chapitre, le chapitre 16, verset 6 à 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, arrivés près de la Mysie et se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. La direction de Dieu fut d'abord négative. Le groupe missionnaire composant de Paul, de Silas, Timothée et Luc essaye premièrement de se rendre dans la province d'Asie, dont la principale ville était Éphèse. Ils traversèrent donc la Phrygie et le pays de Galatie. Ils continuèrent vers le nord jusqu'à Mysie et voulurent entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus, remarquez ici, dans le verset avant, c'était marqué l'Esprit de Dieu. Et encore, juste en bas, c'est marqué, mais l'Esprit de Jésus les a empêchés encore une fois. Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vous et mes pensées au-dessus de vos pensées. Même si les serviteurs de Dieu, ils avaient les bonnes intentions, mais ça peut être différent que la pensée de Dieu. Dieu, souverain, il voit toutes choses. Il connaît les besoins de chaque personne et chaque ville. Le livre des Actes des Apôtres est un livre historique. Et quand nous étudions ce livre des Actes des Apôtres, nous devrions souvenir que c'est un livre historique. Et nous voyons dans ce livre que Dieu opère de différentes manières. Dans le 8e chapitre de ce livre des Actes, nous voyons qu'il y a eu une grande conversion en Samarie, et que des milliers de personnes sont tournées vers le Seigneur. Quand Philippe va aller prêcher, quand il y a eu une persécution à Jérusalem, Philippe est envoyé, il part en Samarie, il prêche, et beaucoup de conversions ont eu lieu en Samarie. Et après, les autres apôtres, ils viennent pour soutenir Philippe. Mais le Seigneur voulait que Philippe quitte la Samarie tout d'un coup et se dirige vers un chemin inconnu dans le désert, menant à Gaza. Et Philippe obéit instantanément et ne comprend que plus tard la raison de l'ordre. Mais même nous, on ne comprenons pas quand nous lisons ce passage, Pourquoi le Seigneur il demande à Philippe de partir de Samarie? C'est quelque chose de très grand qui se passe à Samarie. Mais le Seigneur il dit à Philippe, non, tu pars, tu quittes d'ici. Tu vas vers Gaza par un chemin qui passe par le désert. Il n'y a aucun homme, il n'y a personne. Et il obéit instantanément et ne comprend que plus tard la raison de l'ordre, afin de rencontrer la seule brebis qui s'était égarée. Pourquoi Philippe il part? Le Seigneur, il a vu quelqu'un qui l'a cherché, l'unique Éthiopien. Il était en train de retourner de Jérusalem à son pays. Et le Seigneur, il demande à Philippe d'aller rencontrer cet homme. C'est de cette façon que Dieu travaille. Il quitta le 99 brebis pour aller chercher celui qui était perdu. Deuxièmement, nous rencontrons l'apôtre Pierre dans le 10e chapitre de ce livre, qui n'avait jamais inclus les païens dans le plan de salut de Dieu. Puis par une vision, le Seigneur lui fait comprendre sa volonté et son plan pour les païens. Le prépare et le conduit à Corneille que Pierre n'avait même pas rêvé de rencontrer un jour. Maintenant, dans le 16e chapitre, nous voyons que Dieu avait fermé le chemin que ses serviteurs avaient pensé d'aller et dirigé vers Philippe. Il met ses sentiers dans la mer, dit Psaume 8. Le Seigneur, il est capable de mettre les sentiers sur les mers. Et nous ne pouvons pas comprendre. Dieu est souverain. Il fait toutes choses avec sagesse. Dieu est souverain, il fait toutes choses avec sagesse. D'ailleurs, l'apôtre Paul termine son épître aux Romains ainsi. Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Il peut envoyer son serviteur à Ninive, une ville de plus de 120 000 hommes, ou dans cette région de Macédoine pour seulement quelques âmes. Comme Lydie, cette fille esclave possédée d'un démon, le geôlier et sa maison. Dieu est capable d'envoyer quelqu'un pour rencontrer, pour prêcher le salut de la ville de Ninive. C'est une grande ville à cette époque. Philippe, il y avait 30 000 hommes, mais Ninive, il y avait 120 000 hommes. Et Dieu il peut envoyer son serviteur Jonas pour aller prêcher l'évangile pour ces gens. Et aussi, Dieu détourne le chemin de ses serviteurs pour aller rencontrer ces quelques personnes dans la ville de Philippe, qui était la colonie romaine à cette époque. Nous ne savons pas comment ces empêchements s'accomplirent. Ce fut peut-être par les circonstances, une prophétie, une vision ou un autre phénomène. De toute façon, Dieu s'arrangea pour que les gens des Éphèses et des Bithynie entendent l'évangile plus tard. Et nous devrions pas non seulement être disposés pour le service de Dieu, pour le service du Seigneur, nous devrions aussi écouter la voix de Dieu pour connaître sa volonté. De verset 16 à 18, nous voyons la libération de la devineresse, cette fille qui était une esclave. Nous lisons d'elle. Quelques hommes exploitaient une servante possédée d'un démon à cause de son pouvoir de prédire l'avenir. Un esprit de Python fait référence à la ville grecque de Delphes où on croyait que le dieu Apollon s'était incarné dans un python. La prêtresse de Delphes prétendait être possédée par Apollon et pouvoir par conséquent prédire l'avenir. Tout ce qui était possédé par un esprit de python pouvait donc prédire l'événement à venir. Un vrai démon donnait sans aucun doute à une telle personne des pouvoirs de prédiction. Quand le démon tirer profit de l'adoration de faux dieux. Nous voyons ça même de nos jours. La France, on pense que c'est un pays catholique, mais plutôt c'est un pays athée ou agnostique. Personne ne croit en Dieu. Mais beaucoup de gens qui croient dans ces choses, ils croient dans la prédiction de leur avenir. Et quand on quitte le vrai Dieu, quand on commence à adorer le faux Dieu, Satan utilise ses places pour envahir ces gens, pour profiter de l'adoration des faux dieux. La fille possédée s'attache à Paul et aux autres et criait pour que tous sachent qui il était. Le serviteur de Dieu, très haut, et qu'il prêchait la voie du salut. C'est excellent, n'est-ce pas? Mais Paul et Silas, ils n'ont pas accepté cette recommandation, ni ce compliment. Ce qu'elle a dit, c'est vrai. Ce que cette fille, elle a dit, fille possédée, elle dit, c'était vrai. Mais Paul et Silas, ils n'ont pas accepté ce compliment, ni cette recommandation. Et Satan, il n'a pas besoin de recommander un serviteur de Dieu. Ce qu'il fait est vrai ou pas. On n'a pas besoin d'être attesté par Satan que nous sommes des serviteurs de Dieu. Bien que ces déclarations fussent vraies, l'évangile de Christ aurait souffert d'être associé à une servante possédée d'un démon. Nous devrions faire très attention quand nous recevons des salutations, des recommandations ou des compliments à des sources que nous ne connaissons pas. Est-ce que nous sommes bien vus par Dieu? Est-ce que nous sommes recommandés par Dieu? Ou nous sommes nous recevons des compliments ou des recommandations pour être identifiés par des démons? Et après plusieurs jours, Paul exorcisa le démon en parlant directement à l'esprit. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Il sortit à l'heure même. Donc, voyons un miracle. Paul, vêtu de puissance de Dieu, a pu chasser ce démon. Et après cet incident, nous venons vers le verset 19 jusqu'à 24. Nous voyons comment Paul et Silas se trouvent dans la prison à Philippe. Verset 19. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. Ils les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêtres en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. » À nous qui sommes Romains, la foule se souleva aussi contre eux et les prêtres ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtit des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au joaillier de les garder sûrement. Le joaillier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Voilà, ça c'est le salaire pour ce que Paul et Silas a pu faire. De chasser le démon de cette pauvre jeune fille esclave. Au lieu d'être reconnaissante que cette jeune femme n'était plus possédée par le démon, ses maîtres en voulaient amèrement à la perte de profit qui en résultait. Ils ont donc traîné Paul et Silas devant le magistrat et ont inventé des accusations portées contre eux. Et donc, bien souvent, quand on prêche l'évangile, quand ça touche le portefeuille des gens, quand ça touche le budget, quand ça touche l'argent, l'Évangile n'est pas bienvenu. On les chasse tout de suite de leur ville. Ils ne sont pas bienvenus. L'accusation de maître de servante contre Paul et Silas était évidemment préjudiciable. Peu de temps avant cet incident, l'empereur Claude avait expulsé les Juifs de Rome. Et dans le chapitre 18, 1 et 2, nous voyons que Aquilas et Priscille étaient parmi eux, des Juifs qui étaient chassés par l'empereur Claude. Philippe était une colonie romaine, avait probablement été saisi par la même vague d'antisémitisme. Ceci explique pourquoi Timothée et Luc ne furent pas amenés devant les autorités. Timothée était à moitié d'origine païenne. Son père, il était grec. Et Luc, probablement, aussi. Et dans cette équipe de missionnaires qui entrait en Philippie, il y avait quatre personnes. Mais on trouve apôtre Paul et Silas dans la prison. Mais certainement, ils n'ont pas pris Timothée et Luc, car ils étaient païens. Et fondamentalement, ils les ont accusés d'être des Juifs qui essayaient de bouleverser le mode de vie romain. La foule réagit violemment et poussée par la foule, les magistrats font arracher les vêtements de Paul et Silas. Mais bien souvent, la parole de Dieu qui va toucher notre mode de vie, on le rejette. Vous savez, la parole de Dieu est comparée à lumière. Et si vous allez dans votre jardin, si vous trouvez une grosse pierre ou un bois en train de pourrir, si vous soulevez cette pierre, vous voyez, il y a plein de petits insectes qui vont courir vers l'ombre. Ils n'aiment pas la lumière. Et ainsi, quand la parole de Dieu est amenée dans cette ville, ces gens, leur mode de vie risque de changer. Donc, ils répulsent l'évangile. Le geôlier, ayant reçu un ordre formel, ne voulut prendre aucun risque et les jeta dans la prison intérieure, possiblement un donjon, du moins la cellule la plus sûre, et leur mit sept pieds. Je ne sais pas, on arrive à voir, peut-être on a vu dans les films, des anciens films sur l'histoire, mettre les sept pieds, les mains étaient déjà enchaînées, et on devrait garder les jambes d'une certaine façon. Et pendant des heures et pendant des jours, ça peut être très, très pénible. C'est un moyen de la torture. Les Romains, le gouvernement romain est connu pour les tortures à cette époque. C'est eux qui sont inventé la croix. Quelle réception dans la première ville européenne où ils prêchaient l'évangile. Pour Paul et Silas, quelle réception. Et la situation n'a pas changé même après 2000 ans. Comme ailleurs dans notre pays, l'intérêt de l'argent est primordial. On oppose tout ce qui peut ennuyer le mode de vie de notre pays et surtout à l'évangile de Jésus-Christ qui peut nous libérer des personnes, libérer des personnes d'emprise de Satan. Si l'évangile est annoncé dans notre pays, si ce n'est pas accepté, nous devons comprendre qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans l'emprise de Satan. Dans ce passage, nous voyons deux des principales méthodes de Satan. Tout d'abord, il essaya la fausse amitié. Le témoignage de la jeune fille possédée par le démon, lorsque cela échouait, il a eu recours à la persécution ouverte. Premièrement, c'est l'amitié. Satan, il nous tente par son amitié. Des choses très gentilles. On dit les choses très gentilles sur nous. si ça ne marche pas, si nous n'avons pas encore tombé, il déclare la guerre. Alliance ou persécution, ce sont des deux alternatives. Fausse amitié ou guerre ouverte. Comment le diable a dû triompher en pensant qu'il avait mis fin abruptement à la carrière de ce serviteur dévoué du Christ. Son triomphe était prématuré, comme toujours. Dans ce cas, il est avéré à défaite totale et à la poursuite de l'œuvre du Seigneur. Et le verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et le prisonnier les entendait. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et le prisonnier les entendait. Je pense que c'est presque un miracle que ces choses peuvent passer ainsi. Et l'heure de minuit a trouvé Paul et Silas priant et chantant. Leur joie était complètement indépendante des circonstances terrestres. La source de tous leurs chants était haut dans les cieux. N'importe quel homme peut chanter quand il est libre. Mais nous, dans notre église, parfois, on n'arrive pas à chanter. On est libre, mais nous ne chantons pas comme nous devrions chanter, comme nous devrions louer le Seigneur. Mais ces deux hommes, ils étaient liés, ils avaient les pieds dans le cep, les mains liées, mais ils chantaient. Dieu, mon Créateur, qui a inspiré des chants d'allégresse pendant la nuit, disait Job. Leurs prières et leurs chants furent entendus non seulement par Dieu, mais aussi par les autres prisonniers. J'espère que nous pourrons s'imaginer la situation. Ils ont été dans une prison intérieure, l'endroit était sombre et froid. Leur dos était lacéré et saigné, et ce fut la récompense pour avoir cherché à apporter aux hommes la richesse insondable du Christ. Leurs mains et leurs pieds étaient enchaînés en cèpe, mais ils n'ont pas perdu courage. D'abord, ils ont prié, j'imagine, ils ont prié dans leur cœur, et puis, ils sont priés à haute voix. Et ces gens en prison ont entendu la voix de la prière pour peut-être la première fois de leur vie. Et les prisonniers qui étaient pour différentes raisons, ne sont pas des prisonniers parce qu'ils prêchaient l'évangile. L'évangile n'était pas connu dans cette ville. Et peut-être tous ces gens-là qui étaient prisonniers dans cette prison, ils entendaient la prière et le chant pour la première fois. Maintenant, la vraie prière rend toujours les choses différentes. Il nous apporte une conscience de Dieu. Quand on prie, la vraie prière, ça nous rend conscient de Dieu avec qui nous prions. Et pendant que ces hommes priaient, leur cœur se sont réchauffés et joyeux jusqu'à ce que, par la prière, donne lieu à la louange et ils commencent à chanter. On peut se demander ce qu'ils sauraient chanter cette nuit, ce qu'ils l'auraient chanté cette nuit dans la prison. Était cela le psaume 23, Même quand je marche dans le vallée de la mort, je crains aucun mal car tu es là avec moi. Ou le psaume 34, versets 2 à 9, je vais lire pour vous. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Dans la prison où vous dors, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que le malheureux écoute et se réjouisse. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Je cherchais l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, mais quand on est enchaîné dans une prison sombre et froid. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour d'eux, ceux qui le craignent et les arrachent au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous les saints, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Cette psaume, ça prend une autre dimension quand on est dans cette situation. Ou bien le psaume 37, n'hérite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert. Le psaume 46 pourrait bien le psaume de leur consolation. Je vais lire le verset 2 à 7. Le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Mais maintenant, on devrait poser la question, comment il peut réciter, chanter autant de psaumes? Je ne dis pas qu'ils sont chantés, ces psaumes. C'est juste une pensée qu'ils auraient peut-être chanté. Quand ils sont chantés toute la nuit, certainement ils ont chanté la parole de Dieu. Pour chanter la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Mais nous devrions savoir une chose, nous n'aurons pas la Bible dans nos mains toujours. Dans l'histoire, dans le christianisme, il y a eu dans certains pays où la parole de Dieu était complètement absente. Il n'y avait pas de Bible. Mais si vous lisez ce qui s'est passé en Roumanie pendant l'ère soviétique, les prisonniers n'avaient pas de parole de Dieu. Donc, ce qu'ils ont appris par cœur, ils récitaient, ils partageaient. Donc, nous voyons combien c'est essentiel, combien c'est important d'apprendre la parole de Dieu par cœur, pour connaître. Sinon, qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce qu'on peut chanter quand nous sommes envahis par ces problèmes? Quand nous sommes isolés dans une prison, hors de la vue du monde, hors de vue de tout le monde? Quoi qu'il soit, c'était un grand moment. Les anges du ciel auraient ouvert les fenêtres quand ils l'ont entendu. Je pense que cela a rendu le cœur même de notre Seigneur heureux. Vous vous souvenez quand Étienne murmura sa dernière prière, le Seigneur Jésus lui-même se leva. Quelle merveilleuse surprise pour ceux qui sont dans cette vieille prison cette nuit-là. Il avait toujours entendu le gémissement et des cris, mais des chants d'une joie irrépressible n'avaient jamais entendu auparavant. Et comme nous avons vu dans cette psaume 46, comme il croyait, et le verset 26 de acte 16, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que le prisonnier était enfui. Nous voyons ce que le louange et la prière peut faire. Ça crée le tremblement de terre. La terre trembla dans cet endroit. Et toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et en fait, Paul et Silas n'étaient jamais des prisonniers. Il avait la liberté en Jésus-Christ. Il était libre. Et aucune force sur cette terre peut les emprisonner. Ils peuvent peut-être lier leur corps à quelque chose, mais leur cœur était libre. Nous remarquons dans ce chapitre une série de miracles, des événements surnaturels. Les chants qui viennent de ces prisonniers extraordinaires, comme un parfum qui vient de roses écrasées. Cette délivrance surnaturelle nous rappelle les expériences semblables de Pierre dans Actes chapitre 5 et chapitre 12. Il s'agissait certainement d'une expérience inhabituelle pour ces prisonniers. En plein milieu de la nuit, la prison fut ébranlée, les portes s'ouvrirent, les chaînes tombèrent, parce que le geôlier était responsable de tous les prisonniers qui s'étaient échappés. Il tira son épée pour se tuer. Mais Paul, voyant ce qui était sur le point de se produire, le rassura en lui disant que le prisonnier ne s'était pas enfui. Les autres détenus furent peut-être tellement impressionnés par le Dieu de Paul et Silas qu'ils n'osèrent pas prendre la fuite. Et pendant que nous louons le Seigneur dans cette salle, pendant ce moment d'adoration, quel est le sentiment des autres qui ne connaissent pas Dieu de ce que nous faisons? Ils ont envie de fuir de cet endroit? Ou ils ont envie de connaître le Dieu vivant? Le Dieu que nous adorons? Quel type de sentiment que nous laissons? Quel type d'impression nous laissons au cœur des gens qui nous voient adorer le vrai Dieu? Le verset 29, alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Ainsi, le geôlier, il a demandé la lumière. Bon, c'était pas l'époque où nous avons la lumière à l'appui d'un bouton et il faut amener la lumière, une source de lumière. Et il se dit qu'il n'y avait pas du tout la lumière. Et Paul et Silas, ils chantaient dans le noir. Ils chantaient dans le noir. Parce qu'ils louaient Dieu véritablement. Et personne ne le voit, il le voyait, mais il entendait le chant. Et le verset 30, alors le geôlier, verset 29, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Entrant dans la cellule de Paul et Silas, le geôlier, tout tremblant, dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Cette question était pleine de sens. Il devait certainement comprendre ce qu'il demandait. Il avait sans doute entendu l'histoire de la servante et comment elle avait affirmé que ces hommes étaient des serviteurs de Dieu qui annonçaient le salut. Verset 17 de ce chapitre. Si Paul et Silas s'étaient confiés à ce geôlier pour mettre dans la prison, certainement le geôlier il était au courant. Pour quelles raisons ils sont amenés dans cette prison. Et donc cette jeune femme a possédé, elle disait que ces hommes étaient des serviteurs de Dieu qui annoncent le salut. S'il n'a pas entendu ça, j'en suis sûr qu'il ne peut pas demander, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Il se peut également que la prière et les chants de Paul et Silas se soient rendus jusqu'à ses oreilles. Mais je pense que le geôlier, il habitait dans la même prison comme eux. Pour être sûr que les personnes échappaient de cette prison. Il avait sa famille, il habitait avec sa famille dans la même prison, dans un appartement ou dans une maison, dans l'enclos de prison. Donc il a certainement entendu ce bruit différent. Souvent c'était les gémissements et les cris des prisonniers dans la nuit, mais ce jour-là, le geôlier, il entend le chant et la prière de l'apôtre Paul et Silas. Le terrifiant tremblement de terre qui avait donné aux prisonniers l'occasion de s'enfuir et la parole rassurante de Paul l'avait amené à demander quel était le chemin de salut. Quel est notre comportement quand les choses vont mal? Quand tout est bouché, quand nous avons le bouchon de kilomètres, quelle est notre conduite? Comment nous conduisons-nous en tant que des enfants de Dieu? Est-ce que en voyant le poisson, il nous voit comme des enfants de Dieu? Ou par notre conduite, il nous reconnaisse comme les serviteurs de Dieu? Quel comportement nous avons? Je sais que dans l'Église, nous sommes tous une habit de saint. Mais sinon, dans le moment de crise, comment nous conduisons? Comment nous conduisons? Mais cet homme, il a pu voir quelque chose de différent dans ces deux hommes. Et c'est pourquoi il demande, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Quand la jeune femme possédée, quand elle annonçait qu'il était des serviteurs de Dieu, ça c'est une vérité. Mais plus que ça, quand ce geôlier, quand il demande à Paul et Silas, il a reconnu qu'ils sont véritablement des serviteurs de Dieu. Et le verset 32, « Et ils lui annonçaient la parole du Seigneur, ainsi qu'à tout ce qui était dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs pieds et lava leurs plaies, pardon. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Et le verset 32 dit que « Et lui annonçait la parole de Dieu ainsi que tout ce qui était dans sa maison. » Mais ici, il y a quelque chose qui est paradoxal. Ce prisonnier, cet geôlier, il était le vrai prisonnier. Il était le prisonnier de son péché, de son état pécheur. Et Philippe, Silas qui était dans la prison, il n'était pas des prisonniers. Il n'était pas des prisonniers. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « La libération d'un geôlier ». La libération d'un geôlier. Donc, ici, il voit qu'il annonce la parole de Dieu ainsi que tout ce qui était dans sa maison. Donc, la question, c'était une question simple. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et la réponse aussi, c'était très simple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. C'est tout. Mais là, on devrait arrêter un peu. Si vous croyez au nom de Jésus, simplement au nom de Jésus, c'est ici, je pense que même un enfant, il peut dire facilement, je crois à Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est pourquoi le verset 32 nous explique qu'il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi que tout ce qui était dans sa maison. Et donc, croire au nom de Jésus, ça implique de comprendre qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. Ce qu'il a fait pour le pardon du péché. Et que l'assurance que notre péché est pardonné par son sacrifice sur la croix. Si croire au nom de Jésus, le nom de Jésus était donné pour Jésus quand il était né sur la terre, parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Est-ce que croire au nom de Jésus, ça implique croire que Jésus-Christ a venu dans ce monde, dans la forme humaine, il a porté nos péchés, il a mouru sur la croix, il est mort sur la croix en portant notre péché, il a obtenu le pardon de Dieu en apaisant la colère de Dieu et en nous procurant la paix avec Dieu. Il est mort, il est enseveli, il a ressuscité au troisième jour. C'est tout ça, ça implique croire au nom de Jésus. Sinon, on peut facilement dire que je crois au nom de Jésus et je suis sauvé. On devrait poser la question si nous n'avons pas fait cette confession au nom de Jésus. Maintenant, mes amis, nous allons prendre un peu de temps pour le verset 30. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Nous sommes conscients du fait que ce geôlier était un païen. Il n'était pas un théologien. Je ne sais pas à quel point il a été éduqué. Je ne sais pas s'il savait lire ou écrire. Je ne sais pas s'il a beaucoup voyagé ou non. Il n'a peut-être jamais été au-delà de l'enceinte de sa propre ville. Mais ce que je sais, c'est qu'il a posé la plus grande question. Il ne peut y avoir de plus grand, il ne peut y avoir de plus grand. C'était le plus grand pour lui, c'était le plus grand pour vous, c'est la plus grande question pour moi. Que dois-je faire pour être sauvé? Il n'y a pas de question aussi importante que celle-là. Nous pourrions poser beaucoup de questions dans la vie. La vie est énigmatique. Il peut être bon de poser des questions, mais elles ne sont pas toutes suprêmes. Les questions que nous posons, généralement, n'ont aucune importance éternelle. Que dois-je faire pour être belle? Ou être, pour être beau, pour devenir riche, pour être éduqué, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas la grande question. La question suprême est, que dois-je faire pour être sauvé? Et qu'est-ce qui se passe dans le verset 33? Il est pris avec lui, le geôlier, il le prend avec lui, Paul et Silas. À cette même heure de la nuit, il lava leurs plaies. Et ça signifie la vraie conversion. Le geôlier en train de laver le plaie des prisonniers. Est-ce que nous voyons ce que ça signifie? Est-ce que ça ne ressemble pas que Jésus-Christ est en train de laver les pieds de ses serviteurs, ses disciples? Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Et ayant conduit dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille et de ceux qu'il avait cru en Dieu. Être sauvé, ce n'est pas simplement dire que je crois au nom de Jésus-Christ, je crois en Jésus-Christ, mais notre vie, notre conduite devrait être traduite par cette attitude, ce que le fruit de ce pardon de Dieu que nous recevons. Et le fruit de pardon, ça devrait être traduit par notre amour pour le prochain, nos prochains. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens, et toute sa famille. Certainement, ils étaient tous dans l'âge de comprendre le salut de Dieu, l'évangile. Il fut être baptisé. Et après, nous voyons qu'il y a une communion avec les enfants de Dieu. Verset 34, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille et de ceux qui l'avaient cru en Dieu. Le verset 35, quand il fit jour, le prêteur envoya le lecteur pour dire au joaillier, relâche ces hommes. Et le joaillier annonça ces choses à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha, maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit au lecteur, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Le lecteur rapportait ces paroles au prêteur qui fut effrayé et apprenant qu'il était romain, il vint les apaiser et leur mire en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, il entra chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Donc, cette partie de l'histoire se termine ainsi que les Romains, ils voulaient relâcher Paul et Silas de la prison secrètement, mais Paul, il n'était pas d'accord. Il voulait la justice d'une façon normale. Et le verset 40, quand il fut sorti de la prison, il entra chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. On peut penser que chacun, nous vivons des choses difficiles dans la vie, mais nous entendons souvent que les autres ils viennent nous exhorter parce que nous avons parfois une sorte de pitié soi-même. Mais ce que nous voyons ici, Paul et Silas, ils ont été battus, ils sont en train de saigner encore dans leur dos à cause de leur... Paul, il était battu trois fois. Il raconte qu'il était battu trois fois. Et c'est une des fois dans cette prison ici. Et on voit qu'il exhorte les frères. Il exhorte les frères. Et quelle attitude de la part de ce serviteur de Dieu. Même si eux-mêmes, ils étaient battus, ils étaient maltraités, ils étaient torturés, mais il trouve le moment pour exhorter le frère. Quand il était dans la prison, il chantait, il priait, il adorait Dieu ouvertement. Et quand il sort de prison, ils sont en train de continuer à vivre pour le Seigneur. Quelle belle image de ces serviteurs de Dieu que nous avons dans ce passage de la parole. Que Dieu soit loué. Amen.